Galates, au chapitre 5, les cinq premiers versets. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore. Le terme n'est peut-être pas si bien choisi, mais en tout cas, je dis avec insistance. À tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous, qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. Voilà, je vais m'arrêter là. J'avoue que devant la qualité des interventions ce matin, je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'apporter encore quelque chose, parce que le Seigneur a tellement parlé déjà. Voilà, vous me dites si je dois m'arrêter. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. La liberté fait partie des grandes thématiques de l'homme aujourd'hui. On a soif de liberté, on veut pouvoir faire beaucoup de choses, de plus en plus de choses. Et en fait, d'un autre côté, on nous parle beaucoup de sécurité. Et donc le discours politique actuellement, il balance entre les deux. On va vous donner de la liberté, votez pour nous. Et aux autres, on va donner de la sécurité, voter pour nous. Et donc, là, on a deux thématiques un peu, enfin, largement antithétiques, des choses vraiment opposées. Et toute l'astuce des politiques, c'est de naviguer entre les deux et de faire plaisir à tout le monde. Donc, aujourd'hui, il y a des libertés qui existaient il y a quelques années, qui n'existent plus. Par exemple, les limitations de vitesse. Aujourd'hui, on ne doit pas dépasser le 130, on ne doit pas dépasser le 20 km/h maintenant dans certains quartiers. Bientôt, on va devoir s'arrêter. Je ne sais pas comment on fera pour se déplacer. Et le discours est logique, n'est-ce pas ? Si vous roulez vite, vous êtes dangereux. Donc, rouler vite, c'est criminel. Donc, nous allons vous limiter dans votre conduite et nous allons vous demander de baisser le pied. Excusez-moi. C'est probablement que je n'ai pas l'habitude de faire les choses de cette façon-là. Voilà, levez le pied. Et on vous donnera les statistiques, on vous dira que si vous roulez vite, vous faites beaucoup de morts. C'est pas vrai, en fait. Entre parenthèses, en Allemagne, là où la vitesse n'est pas limitée, on a statistiquement moins de morts notamment sur les autoroutes, que ce que nous avons ici en France encore à l'heure actuelle. Donc le discours d'emblée est faux. Mais la liberté est la préoccupation de l'homme. Il est prêt à finalement et curieusement sacrifier beaucoup de choses, c'est-à-dire prêt à accepter beaucoup de restrictions d'un côté pour recevoir de l'autre côté de la liberté. Et donc on s'aperçoit que finalement nos libertés diminuent, mais dans certains domaines elles augmentent. Si on ramène ça à l'Église et à la foi, on s'aperçoit aussi que il y a des choses qu'on pouvait dire et faire il n'y a pas si longtemps, certaines thématiques qu'on pouvait aborder il n'y a pas si longtemps, et qui aujourd'hui ne sont plus abordables de la même manière. Il y a des choses même qu'on ne va plus dire dans des prédications. On a déjà commencé à intégrer les interdictions. Et lorsqu'on prépare, on sait déjà que non, ça, on ne peut pas le dire. Parce que si c'est écouté, et comme aujourd'hui sur Internet, on est largement écouté, eh bien, on risque gros et on fait prendre des risques éventuellement à nos proches. Je crois que là, il n'est pas question finalement d'accuser qui que ce soit, parti politique ou philosophie quelconque. Il faut voir ce qu'il y a derrière. Il faut voir que Satan a un plan pour nos vies. N'est-ce pas? Nous avons l'habitude de dire que Dieu a un plan pour nos vies. Mais Satan aussi a un plan pour nos vies. Et ce qu'il cherche, avant tout, c'est à diminuer, à amenuiser, ça se dit ça? Amenuiser. Les libertés du croyant. Il cherche à le restreindre et à le réduire à nouveau à l'esclavage. C'est la volonté farouche de Satan pour chacune de nos vies. Donc on pourrait accuser les hommes, les partis politiques, les partis ésotériques, les sectes, toutes ces choses qui existent, et dire oui, ça, ils nous emmènent là dans des directions qu'on ne choisit pas. Mais derrière, il y a le plan du malin qui agit, et qui agit avec force. Alors, c'était un peu ce que l'apôtre Paul, pas un peu beaucoup ce que l'apôtre Paul percevait dans la situation des Galates. N'est-ce pas? Ces phrases, et cette phrase notamment, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, vient tout de suite après cette histoire de Agar et Ismaël et de Sarah et Isaac. Hein, Paul relatait ça pour persuader les croyants de ne pas suivre les judaïsants, de ne pas suivre ceux qui voulaient leur remettre un carcan religieux sur le dos. Et par contre, au contraire, il les incitait à suivre Sarah et Isaac, qui représentent la liberté du croyant. Qu'est-ce que la liberté? C'est une grande question, ceux qui font philo. Alors j'ai demandé à Timothée ce matin, qu'est-ce que la liberté? Il m'a dit, tu m'as dit quoi? Thèse, antithèse, non? C'est comme ça? Bref, c'est huit noms peut-être. Hein, en gros, c'est ça. Si on essaye de faire une définition biblique, qui n'est pas nécessairement évidente. On peut aller dans Romains 6. Au verset 22. Et on a là un verset qui est assez clé pour ça. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Si on regarde ce verset, on pourrait donner la définition suivante, c'est que la liberté, c'est l'absence d'entrave. Pour accéder, pour accéder à la vie éternelle. L'absence d'entrave pour accéder à la vie éternelle. Ça, ce serait une définition rapide de la liberté du croyant. Hein, c'est-à-dire poursuivre un but joyeux, une espérance joyeuse, et pour cela, avoir le chemin dégagé. Hein, c'est ce que dit ce verset. Vous êtes affranchis, vous êtes libérés du péché. Et vous avez pour fin la vie éternelle. Donc, la liberté du croyant, elle se situe là. Je suis sur le chemin à la rencontre de mon Dieu. J'ai un désir profond qui est d'être avec lui. C'est l'espérance qui m'est donnée. Je veux y arriver. Le chemin est ouvert. La possibilité est là, elle existe. Toutes les entraves qui existaient ont disparu. Je suis en route et rien, ni personne, ni aucun événement ne peut venir empêcher cela, empêcher que cela se fasse. Aujourd'hui, notre liberté est contrainte, n'est-ce pas? Si nous voulons nous rendre quelque part, et il y a des gens ce matin qui ne sont pas là, ils avaient projeté de venir, eh bien, la neige qui est tombée, la glace, fait que ce qui était possible est subitement devenu impossible. Eh bien là, d'une certaine manière, il y a un esclavage qui s'est mis en place, c'est l'esclavage du temps. Donc, il y a plein d'exemples simples comme ça qu'on pourrait trouver dans la vie quotidienne qui pourraient nous montrer que on peut rapidement tomber esclave, devenir esclave de choses qui vont nous empêcher ou qui veulent nous empêcher d'avancer vers le but fixé, vers cette vie joyeuse et éternelle que le Seigneur nous promet. Je retourne dans Galates. Paul continue, dit « Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, si vous vous faites circoncire, Dieu vous sera favorable. Personne ici ne se fait circoncire. Plus personne ne se fait circoncire. Bon, il y a certains pays, ça existe encore. Il n'y a pas que les Juifs. Il y en a d'autres. Mais les croyants, les chrétiens ne disent pas ça, n'est-ce pas? On ne va pas se faire circoncire. Mais dans la pensée de l'époque, c'était oui, si on, en plus de croire à Jésus, on fait ça, alors Dieu nous sera d'autant plus favorable. Parce que on croit à Christ. Et en plus, on fait les choses d'avant. Donc, mais en rajoutant, on devient esclave de quelque chose. Et finalement, la pensée derrière, c'est la manipulation. c'est si je le fais, ça va m'apporter un bénéfice. Alors, évidemment, on ne se fait pas circoncis, hein. Mais on reporte ces choses-là dans d'autres domaines. On fait d'autres choses. Si je vais aux réunions, eh bien, Dieu me sera favorable. Mais ici, ce n'est pas le cas. Je veux dire, les gens ne réagissent pas comme ça. On n'a pas beaucoup de gens en réunion. Donc, ce n'est pas ça que nous faisons, nous, ici. C'est un peu de la manipulation, mais quand même. Mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est qu'on peut vouloir faire des choses. Parce qu'on sait que on a l'impression qu'on ne fait pas assez, quoi. Et que, finalement, si on agissait, je sais pas, si on vendait des livres chrétiens, ou si on jouait au piano le dimanche, ou si, eh bien, ça serait un plus, quoi, pour la vie. Mais ça ne marche pas comme ça. Parce qu'on s'enferme rapidement dans un système où psychologiquement on est esclave de ce qu'on fait. Et on en fait, et alors on doit, de toute façon, on va vouloir en rajouter, et on s'enferme comme ça. Mais alors il y en a d'autres qui sont plus futés, et ça, en général, c'est les évangéliques. Les évangéliques sont très futés. Et ils disent, ah, mais nous, on connaît bien la Bible. Donc, nous, on ne va rien faire de ces choses-là. En fait, on va tout faire pour éviter de faire les choses qui fâchent Dieu. N'est-ce pas? On va s'arranger pour ne jamais faire d'erreurs, de bêtises, des péchés, tout ça, on va éviter de faire ce qui déplaît à notre Dieu. Et comme ça, il nous sera favorable. N'est-ce pas? C'est subtil, ça. Si on fait tout bien, si on lit sa Bible tous les jours, si on prie tous les jours, si on va aux réunions, si on est gentil avec son voisin, si, et je pourrais vous sortir tous les fruits de l'esprit individuellement de cette façon-là, si on fait ces choses, si on les accomplit, eh bien Dieu nous sera particulièrement favorable. Et vous savez, toutes ces épreuves qui arrivent dans la vie des gens pour les former, pour les amener à la sanctification, tout ça me sera évité parce que je suis moi-même sur le chemin de la sanctification, puisque je fais tout ce qu'il faut et Dieu n'a pas besoin d'intervenir de cette façon aussi terrible pour que moi, je marche droit. Il y a bien des années, je me souviens que c'était la question que posait une jeune femme que je connaissais très bien, et que je respectais beaucoup pour sa stature spirituelle, et c'était la question qu'elle posait au prédicateur. Est-ce que si je fais tout bien, Dieu va m'éviter les souffrances? Est-ce que c'est comme ça que nous entrevoyons notre vie spirituel? Dieu va agréer mon obéissance et ma soumission, et ma vie sera bénie et paisible. Il y a beaucoup de gens hautement spirituels qui peuvent vous témoigner de l'inverse. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des vies impeccables, irréprochables devant Dieu, qui peuvent vous témoigner que ça ne leur a pas épargné les épreuves de la vie. Le problème, donc, ce n'est pas la circoncision, mais c'est l'idée d'utiliser un acte religieux et de le transformer en obéissance servile pour vouloir en tirer un profit pour soi-même, un profit spirituel, un profit moral, un profit religieux. Et c'est particulièrement ce que reprochait Jésus aux pharisiens. Vous, Vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs. Dieu connaît mon cœur. Et derrière ça, le point critique, et c'est toujours le même, c'est tout l'investissement que l'homme se sent obligé de faire pour gagner son salut. Pour toujours être sûr que Dieu ne l'a pas abandonné. Cette façon de concevoir la marche avec Dieu nous amène invariablement à perdre notre liberté. Et on parlait des enfants, des nourrissons. Un des avantages du nourrisson, c'est le peu de conscience qu'il a de son état. Un des avantages d'être un enfant, un bébé dans la foi, c'est de ne pas avoir justement cette conscience extrêmement éveillée de toutes les choses spirituelles qui existent et d'être justement alors sous une protection intense de l'Esprit de Dieu. Donc, il y a des avantages à être bébé et à manger du lait. C'est vrai, c'est bon la purée. Comme moi, je donnais ça à mes enfants. Tu ne veux pas le manger? Bon, c'est pas grave. Je vais le manger à ta place. C'est pratique, c'est prémâché. On va dans une direction, il ne faut pas y aller, ben, y a toujours quelqu'un pour vous empêcher d'y aller. On risque pas grand-chose quand on est bébé, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que le Seigneur nous appelle à grandir. Parce que ce qui se joue là, si vous vous faites circoncire, si vous recherchez ces actes religieux, Christ ne vous sert à rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes juste des bons juifs. Vous êtes un très bon juif peut-être, mais Christ n'a rien à voir dans votre vie et ne vous sert à rien. Pourquoi? Parce que l'œuvre de la croix, c'est une œuvre qui appartient de façon exclusive à Dieu. Dieu n'est pas prêt à partager avec l'homme cette démarche. Dieu n'est pas prêt à vous donner un seul pourcent ou un dixième de pourcent de quelque chose à voir dans l'œuvre de la croix. Il ne veut pas que vous y participiez. En tout cas, il ne veut pas que vous ajoutiez à ce salut qu'il vous donne. C'est pas notre rôle, c'est pas mon rôle, c'est pas le vôtre. Le profit, parce qu'il y a du profit à la croix, n'est-ce pas? Spirituel, psychologique, physique des fois. Ce profit-là, vous ne devez jamais sentir que c'est quelque chose que vous avez fait, qui vous l'apporte. C'est l'œuvre de la croix uniquement qui doit vous convaincre que si ça a changé dans votre vie, c'est pas parce que vous êtes devenu un chouette type. C'est pas parce que tout d'un coup vous avez compris le sens des choses de la vie, c'est parce que Christ a payé un prix extrêmement lourd pour que le Saint-Esprit puisse venir et opérer en vous un changement de mentalité tel que ça va avoir une résonance dans toute votre vie, dans la vie de vos familles, dans la vie de votre entourage professionnel. Peut-être dans la ville entière, qui sait. Notre liberté, c'est tout ce tout ce que la croix de Christ nous apporte. C'est ça que la croix fait. C'est qu'elle nous dégage le chemin. Ces entraves dont on parlait qui nous empêchent d'accéder à ce but joyeux. Eh bien, c'est ça que la croix accomplit dans notre vie. Je t'ouvre ce chemin qui jusque-là était fermé. Et quand l'homme cherche à rajouter des choses, quand il cherche à produire par des actes religieux une bénédiction supplémentaire, rêvée, mais souvent c'est comme ça que c'est fait, eh bien il retourne dans un esclavage qui peut être terrible, qui peut être très profond. Des attaches qui peuvent être très, très, très fortes. Dans Galates, si on revient juste un peu avant, au chapitre 2, verset 21, l'apôtre Paul dit « Je ne rejette pas la grâce de Dieu. » Je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Au verset 3, Paul enfonce le clou. Je proteste, je déclare solennellement à tout homme qui se circoncit, qu'il est obligé d'accomplir toute la loi. Il est tenu de pratiquer la loi tout entière. N'est-ce pas? Les judaïsants, ceux qui cherchent à accomplir des choses en pratiquant des actes, eh bien, ils ne sont pas assez judaïsants. N'est-ce pas? Si on veut, alors il faut tout faire. Pas juste un petit peu. Si vous voulez y aller, alors faites tout. Pratiquez la loi entière. Celui qui se sent contraint d'accomplir des actes rituels, pensant que ceux-ci apporteront la bienveillance de Dieu, doivent s'organiser pour être en règle avec tous les articles de la loi. Car il est dit, chapitre 3, verset 10, « Maudit est quiconque qui n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Ça, c'est pour tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi. Ce que Dieu veut aujourd'hui pour nous, c'est que nous vivions libres. Que nous vivions avec aucune contrainte sur le chemin qui nous amène à l'espérance joyeuse de la vie éternelle. Il ne veut pas que nous ayons le sentiment qu'il faut payer une dette. Un des aspects les plus subtils de cela, c'est l'idée que il faut rendre à Dieu la bonté qu'il a eue pour nous. En sociologie, on appelle ça le contre-don. C'est-à-dire on nous a donné quelque chose, il y a quelque chose dans l'homme qui fait qu'on se sent obligé de rendre. Et ça, c'est fréquent. On sait que ça existe et que c'est quasi automatique que lorsqu'on a été bon avec nous, qu'on nous a donné quelque chose, il y a cette envie de restituer en partie et de n'importe quelle manière possible de restituer ce qui nous a été donné. Mais sachez que même ça, Dieu n'en veut pas. Où on a le droit d'être reconnaissant. On a le droit d'être à genoux dans l'adoration de ce que Dieu a fait pour nous. Il n'y a pas de problème. Mais Dieu n'attend surtout pas d'être payé en retour. Il n'attend pas un contre-don de notre part. Il n'attend pas un investissement dans l'évangélisation, dans tout ce qu'on peut faire. Il vous demande d'accepter le cadeau qui vous a été fait, de l'accepter pleinement, entièrement, avec les bras grands ouverts, en ingurgitant tout ce qu'il peut vous communiquer par la foi, par l'Esprit de Dieu. Les conséquences seront sans doute que vous irez travailler pour Dieu d'une manière ou d'une autre. Mais il ne faut pas que cela fasse objet d'un échange. Tu as fait tant de choses. Comment est-ce que je peux faire pour te rembourser? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas tout simplement parce que tu n'es pas sauvé juste il y a 20 ans, 5 ans, 8 ans, 6 mois. Mais c'est parce que tu es sauvé tous les jours. Et parce que tu seras sauvé dans le futur également. Et donc le prix que Christ a payé, il le paye encore aujourd'hui. Et il le payera encore demain. Je sais que c'est un moment historique. Mais en même temps, nous sommes sauvés jour après jour. Je vais raccourcir parce que on arrive à l'heure. Ça, c'est un autre point que Satan veut mettre en exergue, c'est de nous faire réaliser exagérément à quel point nous sommes redevables à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité, mais pas des groupies. N'est-ce pas? Il ne veut pas des gens qui l'adulent comme une vedette, mais qui l'aiment d'un cœur sincère et qui sont prêts à marcher avec lui et à apprendre de lui jour après jour. Je vais passer rapidement à la fin. Verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Satan veut nous éloigner du sang de Christ. Il veut nous inciter à travailler pour notre propre justice. Et ainsi, il est sûr de nous remettre sous un joug, sous l'esclavage. Or, la liberté du croyant dépend de la grâce de Dieu. Si nous vivons dépendants de pratiques religieuses, alors nous vivons dans le légalisme. Et la grâce, c'est pas qu'une doctrine. On parle de la grâce et on ne sait pas toujours quoi mettre dedans parce que ça peut être complexe. Mais en réalité, la grâce, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu exercée jour après jour dans la vie du croyant. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. N'est-ce pas? Jour après jour, Nous avons besoin de recevoir cette grâce de Dieu. On ne peut pas s'en passer. On ne peut pas dire que un jour on va vivre sans la grâce de Dieu. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas mis Dieu au centre une fois, Corinne, qu'on n'est pas sous la grâce de Dieu. La grâce de Dieu va au-delà de ces choses. Alors certains me diront, mais oui, quand même, il faut faire quelque chose, n'est-ce pas? Il faut travailler à son salut. Alors je réponds au travers des paroles de l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15. Verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Ah, tu vois, il faut travailler. Tu vois, celui-là, tu l'avais raté, hein, il faut travailler. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. On peut faire ce qu'on veut. C'est la grâce de Dieu. Si on retourne dans Galates, je vais terminer là-dessus. Verset 5, c'est par la foi que nous attendons par l'esprit l'espérance de la justice. Bien entendu, la justice nous a été accordée dès maintenant, mais nous attendons encore la justice parce que nous serons devant Dieu. Et nous attendons, il dit. Nous attendons, mais pour nous. Et là, l'apôtre Paul parle de lui. Pour moi, c'est de la foi que j'attends, par l'Esprit. Au-dessus, il dit, vous, vous êtes séparés de Christ. Vous qui cherchez la justification dans la loi. Comprenez? C'est qu'on peut attendre de deux manières. Les deux attendent. L'esclave attend. Le judaïsant attend. Mais nous, aussi, nous attendons. Nous attendons avec foi. Et nous attendons avec foi par l'Esprit. Alors que certains attendent avec foi dans les actions qu'ils entreprennent pour Dieu. Mais lorsque nous apparaîtrons devant Dieu, comment est-ce que nous apparaîtrons? Est-ce que nous apparaîtrons comme des esclaves qui attendent? Où est-ce que nous apparaîtrons comme des fils libres qui reçoivent? Voilà, c'était la question sur laquelle je voulais terminer. C'est une prédication que j'ai toujours un peu de mal à faire parce qu'on met beaucoup de choses dans la grâce de Dieu et dans la liberté. Et souvent, c'est assez mal compris. Mais aujourd'hui, je crois vraiment que le Seigneur voulait parler de cette façon-là. Il y a de toute évidence du travail à accomplir pour le Seigneur, c'est sûr. Mais il ne faut pas que ce travail, nous le fassions dans l'idée que cela va avoir un impact quelconque sur la façon dont Dieu va nous percevoir. Parce que ça, c'est le chemin vers un esclavage assuré. C'est-à-dire que nous allons nous embourber petit à petit et toutes nos actions, en fait, sont dépendantes de la façon dont on croit que Dieu nous perçoit. L'apôtre Paul, ici, nous encourage à accepter la grâce de Dieu par la foi et à vivre selon l'Esprit de Dieu. Et que nous puissions marcher dans la liberté, c'est-à-dire sans entrave d'aucune sorte, en ne prenant pas excuse de cette liberté pour faire n'importe quoi, évidemment, mais que nous puissions recevoir ce que Dieu nous a promis et que nous puissions l'attendre avec joie. Voilà, Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour les multiples possibilités que nous avons de la lire et de l'entendre. Merci, Seigneur, pour les multiples rappels de ton amour pour nous. Et, Seigneur, de l'investissement qu'a été celui de Jésus sur la croix, Seigneur, et ce don merveilleux qui découle, Seigneur, de la croix, c'est cette faculté, Seigneur, de vivre une vie nouvelle en Jésus-Christ. Seigneur, je te remercie du fond du cœur, dans le nom de Jésus. Amen.